Il est 11h30, Infomag avec Lionel Sabot.
Rendez-vous la nuit prochaine à Paris pour les formations politiques calédoniennes. Une première réunion de travail est prévue à l'Élysée à l'invitation du président de la République. Il s'agit d'apporter des clarifications à l'accord de Bougival. Sonia Backès comparaissait cette nuit devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Elle a été attaquée en diffamation par Christian Théin pour des propos qu'elle a tenus sur RTL. Mieux vaut tard que jamais, le gouvernement reconnaît à son tour qu'il sera impossible de faire adopter le budget par un vote de l'Assemblée nationale. Deux options restent à disposition de l'exécutif, le 49-3 ou les ordonnances. Le président de la République présentait ses vœux aux armées cette nuit pour nous. Il a lancé un énième appel au réarmement du pays dans un monde qualifié de brutal. Et puis le sport avec du tennis, et on connaît l'ensemble des qualifiés pour l'Open d'Australie. Arthur Géa, vainqueur du BNC Tennis Open de Nouméa, est le seul Français à être sorti des qualifications. Bonjour, soyez les bienvenus dans ce journal. C'est à 18h de Paris que les délégations politiques calédoniennes ont rendez-vous à l'Élysée pour le début des discussions sur l'accord de Bougival. Cette réunion plénière qui précédera 3 jours de travail au ministère des Outre-mer sera présidée par Emmanuel Macron. Le chef de l'État sera entouré par le Premier ministre, les présidents de l'Assemblée nationale et la ministre des Outre-mer, Jean-François Bodin.
L'objectif est d'avancer sur la mise en œuvre de l'accord de Bougival et cette nouvelle étape doit permettre d'y apporter les éclairages et les précisions nécessaires. Si les délégations parviennent à se mettre d'accord, les précisions seraient intégrées à l'accord avant l'examen par le Parlement du projet de loi constitutionnelle qui serait alors amendé. Les délégations qui sont présentes à Paris, Rassemblement, Loyalistes, Unis, Calédonie Ensemble et Éveil Océanien, ont chacune regretté la décision du FLNKS de ne pas honorer ce rendez-vous, car il est urgent d'avancer, nous a dit Virginie Rufnac pour le Rassemblement.
Cette séquence, c'est surtout une séquence qui est indispensable parce que nous ne pouvons pas laisser les Calédoniens dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui, sans perspective, sans visibilité sur leur avenir, avec beaucoup d'inquiétude. Et donc, nous n'avons pas le choix. Cette séquence, elle doit être conclusive. Il s'agit donc de retrouver sans doute des équilibres, sans changer les principes fondamentaux de cet accord de Bougival, qui pour nous ne sont pas discutables.
Rester donc dans le cadre de l'accord de Bougival, le préciser mais sans en changer les principes fondamentaux. C'est aussi l'objectif affiché par le chef de l'État lorsqu'il a invité les délégations calédoniennes. Il devrait le rappeler lors de la réunion plénière la nuit prochaine pour nous, avant que les délégations travaillent point par point pendant 3 jours au ministère des Outre-mer. C'est là que les choses se joueront. La délégation unie, nous a dit l'un de ses porte-parole, Jean-Pierre Djaïwé, attend des clarifications sur plusieurs sujets.
Nous allons évoquer un certain nombre de sujets, notamment sur l'exercice du droit à l'autodétermination, c'est le point le plus important, sur la capacité d'auto-organisation, c'est dans le cadre de l'adoption de la loi fondamentale qui est prévue dans l'accord de Bougival, c'est aussi l'identité kanak. Le souhait que l'on veut, c'est de reprendre tout le préambule de l'accord de Nouméa qui parle bien de l'identité kanak, qui est un texte fondateur. Il y a également l'association des Calédoniens aux exercices des compétences qui sont exercées par l'État. Nous, on voudrait qu'il y ait des modalités plus précises sur la manière de faire en sorte à ce que les Calédoniens soient associés à l'exercice des compétences régaliennes en vue de transfert des compétences régaliennes qui est prévu également dans l'accord de Bougival.
Des sujets sur lesquels les délégations doivent parvenir à se mettre d'accord, mais pour le député Nicolas Metzdorf, membre de la délégation des loyalistes, ces discussions ne doivent pas remettre en cause l'esprit de Bougival.
Si on doit préciser des choses, clarifier des points, on le fera. D'ailleurs, c'est la demande des Calédoniens avant de pouvoir le voter. Donc moi aussi, je vais le clarifier. On a besoin d'avancer sur l'accord de Bougival. Mais la remise en cause de l'esprit politique, ça c'est non. C'est-à-dire que si, par exemple, une des demandes indépendantistes, c'est de dire, si on n'a pas 36-56e, il y a quand même un transfert de compétences, ça c'est non. Ça, voilà. Donc, en gros, si je peux résumer les choses, c'est ça. C'est-à-dire que l'esprit de Bougival doit demeurer.
Pour Calédonie Ensemble, comme pour les autres délégations, l'absence du FLNKS est préjudiciable. Mais au-delà de cette absence, Philippe Dunoyer espère que l'État va préciser un certain nombre de choses.
Ce que moi j'attends surtout, c'est de savoir ce que l'État va décider de faire et de ce que les parlementaires vont décider de faire de ce projet de loi constitutionnelle qui est la deuxième brique de la mise en œuvre de l'accord de Bougival, mais pour l'instant n'a pas prospéré. Parce qu'on sait qu'il y a un déficit de majorité, en tout cas par rapport aux 3/5 qui sont nécessaires à Versailles. Moi, j'attends aussi qu'on se dise les choses clairement. Que se passe-t-il? Comment l'État compte-t-il faire avancer ce dossier? Est-il le souhaite? Et s'il ne le souhaite pas, comment est-ce qu'on gère la suite, notamment les élections provinciales?
Des élections provinciales qui pourraient être décalées de quelques semaines, repoussées au mois de septembre, pour permettre au travail législatif sur la mise en œuvre de l'accord de Bougival d'aller à son terme en intégrant le résultat des discussions qui s'ouvrent la nuit prochaine.
Et à quelques heures de l'ouverture des discussions, les partenaires sociaux, syndicats patronaux et syndicats de salariés ont adressé un courrier commun au chef de l'État. Ils alertent Emmanuel Macron sur la situation économique et sociale critique.
Elle a atteint un niveau de gravité sans précédent et aucun signe d'amélioration n'est perceptible pour 2026, écrivent-ils. Les régimes sociaux sont au bord de la rupture. La caisse de retraite du secteur privé ne pourra plus verser les pensions après le mois de mai. Le RUAM pourrait se retrouver en défaut de liquidité fin juin. À cela s'ajoute l'industrie du nickel qui ne peut plus reposer sur des subventions permanentes, industrie pour laquelle des décisions doivent être prises dans les prochaines semaines pour éviter que les repreneurs qui se sont manifestés ne se détournent de la Calédonie. Nous en appelons à la responsabilité des dirigeants politiques calédoniens, écrivent les signataires de ce courrier. À défaut d'un accord rapide entre le territoire s'installera dans une spirale de déclin dont il sera très difficile de sortir. Les responsables économiques et sociaux confirment par ailleurs leur appui au plan de refondation proposé par le Premier ministre et demandent la mise en œuvre concrète de réformes issues des travaux menés avec la mission interministérielle. Nous rappelons enfin, conclut-il, qu'aucun redressement économique sérieux et durable n'est possible sans stabilité institutionnelle.
Un courrier
Radio Rythme Bleu, opinion.
Un courrier signé par les présidents du MEDEF, de la CPME, de la FINC, de l'UEDP, côté organisation patronale, et par Lussoinc, la COGETRA et du TFE-CGC pour les organisations syndicales. Venons-en à opinion avec la réponse à la question d'hier. 94% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS attendent une prise de position forte de la part du président de la République lors de la rencontre à Paris sur l'accord de Bougival et l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont 6% à dire à ne pas attendre de prise de position forte. Voici notre question du jour. Un nouveau report de quelques semaines des élections provinciales est envisagé. En cas d'accord à l'issue des négociations à Paris, y êtes-vous favorable ? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2. Vous envoyez bien sûr votre réponse au 3146. Actualité judiciaire. Sonia Backès comparaissait cette nuit devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Elle a été attaquée en diffamation par Christian Théin pour des propos tenue sur RTL en septembre 2024. Elle avait qualifié celui qui venait d'être élu président du FLNKS de terroriste. Xavier Robert, notre correspondant à Paris, a suivi l'audience.
Sonia Backès, la présidente de la province Sud, n'a pas assisté à l'audience. Christian Théin, lui, est intervenu par visioconférence en direct de Nouméa. Pendant 2h30, accusations et défense ont disserté sur le mot terrorisme, sa signification, le contexte auquel le mot renvoie, autrement dit les émeutes de mai 2024. « Je n'ai jamais cherché de ma vie à nuire à quelqu'un », a déclaré le président du FLNKS. Mon rôle à la CCAT, la cellule de coordination des actions sur le terrain, était d'organiser des manifestations pacifiques la nuit du 13 mai. J'étais chez moi et je dormais. D'ailleurs, a renchéri son avocat, maître Florian Médico, mon client est désormais libre de ses mouvements, et le président de la République l'a même invité à la réunion de vendredi à l'Élysée. On n'invite pas un terroriste à l'Élysée. L'avocat de Sonia Backès, maître Rémi Laurin, s'est employé, lui, à démontrer que les propos de sa cliente n'étaient pas suffisamment précis pour pouvoir caractériser une diffamation et qu'en tout état de cause, ils avaient été tenus de bonne foi. Maître Laurin a aussi observé que les 3 victoires au référendum du camp loyaliste avaient entraîné une radicalisation du camp indépendantiste, radicalisation qui s'était traduite par des propos et des actes menaçants de leaders de l'UC comme Daniel Goa et Rocco Amitan. Comme c'est l'usage dans les procès en diffamation, le procureur n'a pas requis de peine. Le jugement sera rendu le 25 mars prochain. À Paris, Xavier Robert, RRB.
Dans l'actualité de ce vendredi midi, également un cœur, une voix qui poursuit ses recours contre le gel du corps électoral. Après le Conseil d'État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel, l'association se tourne désormais vers la Cour européenne des droits de l'homme. Elle vient d'adresser une note à la CEDH ainsi qu'au gouvernement de Sébastien Lecornu pour demander le dégel du corps électoral. Il s'agit d'un premier pas avant le recours qui peut être déposé dans un délai de 4 mois. Une démarche initiale alors que les discussions sont en cours autour de l'accord de Bougival. Raphaël Romano est le président d'Un cœur, une voix.
La Cour européenne des droits de l'homme sera saisie si il n'y a pas d'accord. Ça a tout son sens, puisqu'on voit bien qu'il y a des discussions auxquelles ne participe pas le FLNKS. Je ne me ferai pas l'avocat des partis politiques, qu'ils soient loyalistes ou indépendantistes, mais le dégel du corps électoral devrait être quelque chose de non négociable. Pour les indépendantistes, ou pour les loyalistes. 10 ans, pour nous, c'est trop. 15 ans, c'est trop. Nous avions proposé une mandature. L'important, c'est de dégeler le corps électoral. Il faut ouvrir le corps électoral. Bien évidemment, nous aimerions qu'il le soit le plus possible. Le corps électoral doit être réouvert, pas parce que c'est une lubie de l'association Un cœur, une voix, parce que c'est une obligation démocratique. Et on espère que la Cour européenne des droits de l'homme va faire le nécessaire pour réparer cette injustice. Le corps électoral doit être dégelé, c'est une impérieuse nécessité pour le développement de la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes calédoniens de cœur, rien ne se fera contre nous, et on espère que ça se fera avec nous. On espère avancer et construire la Nouvelle-Calédonie de demain.
Un cœur, une voix qui peut compter sur le soutien du groupe Ensemble pour la République qui est venu sur le territoire la semaine dernière.
Nous avons la chance d'avoir un accompagnement des députés d'Ensemble pour la République qui, lorsqu'ils sont venus, ont vraiment pris conscience de la difficulté que rencontraient les Calédoniens au quotidien et l'infamie, l'injustice qu'était le gel du corps électoral. Pour des démocrates et pour des élus de la République, c'était effectivement peut-être quelque chose sur le papier d'abstrait. Ils ont vu des hommes et des femmes qui étaient face à eux, qui étaient là depuis 25-30 ans, nés en Nouvelle-Calédonie, d'origine mélanésienne, d'origine wallisienne, d'origine futunienne, qui ne pouvaient pas voter et participer aux élections provinciales, et ils ont été choqués.
Et l'association espère que le corps électoral soit dégelé grâce à un accord politique en cas de blocage. La Cour européenne des droits de l'homme sera donc saisie. Il est 11h42, on va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, la suite de l'actualité en Calédonie. Nous partirons notamment à Koné pour une séance de la province Nord.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon, Magenta, à côté de Mazda.
Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
À compter du mardi 20 janvier, la circulation automobile se fera à double sens autour de la place des Cocotiers. Les rues Anatole France et Jean Jaurès pourront désormais être empruntées dans les deux sens.
Pour cela, des travaux de signalisation seront réalisés dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 janvier. En fonction de l'avancée du chantier, des ajustements pourraient s'étaler jusqu'au mercredi 21 janvier.
Les informations pratiques et le nouveau plan de circulation sont disponibles sur le site www.nouméa.nc et la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Pour votre sécurité, faites preuve de vigilance et respectez la signalisation mise en place.
Ceci était un message de la ville de Nouméa.
RRB, 11h-13h, Infomag, Lionel Sabot.
Une séance courte mais nécessaire, c'est ce qu'a déclaré Paul Néaoutine en préambule de l'Assemblée de la Province Nord qui se déroulait ce matin à Koné. Une séance qui n'aura duré qu'une vingtaine de minutes mais qui aura permis de clarifier certains sujets, Léana Colombo.
Quatre points figuraient à l'ordre du jour et l'ensemble des délibérations a été adopté à l'unanimité. Les élus ont notamment autorisé le président de l'Assemblée à engager, liquider et mandater des subventions au profit de services publics et d'organisations ne pouvant attendre le vote du budget primitif 2026, prévu le 27 février prochain. Parmi les bénéficiaires, la direction diocésaine de l'enseignement catholique, qui reçoit une aide de plus de 4 millions de francs. En fin de séance, il a d'ailleurs encore été question de l'ADEC et notamment de la situation des établissements scolaires de Puebo et Point-d'Imier, menacés de fermeture. Nadège Fèvre, première vice-présidente de la province Nord.
C'est une véritable inquiétude que nous partageons tous. Inquiétude dans le sens où il est vrai que c'est un sujet récurrent. Chaque année, le débat s'invite et de la même façon sur les enseignements privés. Pour autant, il y a eu des plans de redressement, donc chacun y a participé pour faire en sorte que justement les trois enseignements privés, globalement, puissent continuer d'assurer leur mission sur les territoires des trois provinces. La difficulté cette année, c'est qu'il y a un véritable plan a été engagé par l'ADEC, notamment. Et ce qui est compliqué, c'est que nous sommes quand même à un mois de la rentrée. Nous n'avons toujours pas confirmation officielle des fermetures des établissements qui nous ont été annoncées, mais officieusement. Donc je préfère ne pas les détailler, parce que je pense que l'ADEC devrait aujourd'hui communiquer et aux provinces et aux communes, sans plan et les établissements qu'elle entend fermer dès la rentrée de 2026, pour qu'on puisse s'y préparer.
Autre délibération validée, le règlement de créance de la Société minière du Sud-Pacifique par la province Nord. Depuis 2021, la province Nord règle chaque année des garanties d'emprunt à la place de la SMSP, fragilisée par la crise du nickel. Ces sommes sont des avances théoriquement remboursables et deviennent donc des créances provisionnées systématiquement par la collectivité. Si avant, ces provisions se faisaient sans vote spécifique, l'État exige désormais une délibération formelle. Nadège Fèvre, première vice-présidente de la province Nord, en a profité pour réaffirmer son soutien aux salariés et sous-traitants de la NMC mobilisés la semaine dernière.
On a vu les mobilisations récemment. On sait aussi les difficultés que la NMC rencontre. Bien évidemment, chacun est pour le maintien de cette société, quoi qu'il en soit. Ils sont intervenus et le partenaire coréen fait des efforts pour que l'activité puisse se poursuivre. Ils sont intervenus par courrier auprès de l'État et une réponse est attendue. Voilà, on en est là. Nous, la province, on reste dans l'accompagnement, en tout cas techniquement, etc. Moi, je croise les doigts et je pense qu'on trouvera une issue favorable pour le maintien de cet outil et de ses agents.
Le débat d'orientation budgétaire de la province Nord est attendu d'ici la fin du mois de janvier, avant une prochaine assemblée fixée au 27 février pour le vote du budget primitif 2026.
Merci Léana. Le gouvernement alerte sur le risque d'épidémie de dengue. Le territoire a été préservé depuis 2019 en raison des confinements conjugués au déploiement du programme Wolbachia dans le Grand Nouméa. Depuis le début du mois de janvier, la DAS a recensé plusieurs cas dans les communes du Nord. Écoutez le docteur Anne Vomstiel qui était notre invité ce matin.
On a à peu près moins d'une dizaine de cas autochtones dans des zones, dans des communes où il n'y a pas Wolbachia. On n'est pas en épidémie, mais on est en alerte sur rappel de bonnes pratiques, justement pour éviter un risque épidémique dans les prochaines semaines, puisque enfin, le risque est réel. On est dans la saison chaude, donc la saison la plus à risque, où les moustiques se reproduisent le plus rapidement possible. On est la période où les gens bougent avec les vacances scolaires, donc peuvent diffuser le virus d'une commune à une autre, d'un quartier à une autre. Donc il faut vraiment rappeler la vigilance à tous les habitants de Calédonie, puisqu'on n'est pas à l'abri d'un démarrage rapide d'épidémie, effectivement.
Et face au risque épidémique, la DAS tient à rappeler les bonnes pratiques.
Ces réflexes, c'est se protéger avec des répulsifs cutanés, dès l'apparition de signes cliniques, une fièvre d'apparition brutale avec des douleurs articulaires et musculaires, maux de tête. Quand on commence à avoir les signes cliniques, on est déjà contagieux. C'est-à-dire que chaque moustique qui nous piqueront aspirera du sang avec des virus et toutes les personnes qui seront piquées après par ces moustiques-là seront contaminées. Donc il faut se rappeler que c'est un moustique qui pique la journée et donc il faut se protéger pendant la journée.
Et il faut aussi éviter que les moustiques ne se reproduisent et notamment toujours la question des gîtes larvaires à détruire.
Oui, tout à fait. Les gens ont perdu ces réflexes de destruction des gîtes larvaires. Déboucher les gouttières, c'est enlever les encombrants, c'est tous les petits objets qui peuvent retenir de l'eau. C'est un moustique aussi qu'on l'élève autour de chez soi. Il va vivre autour de son gîte larvaire qu'il a vu naître. Et en plus, bon, bah, il y a les humains autour qui pourront lui donner son volume de sang pour se reproduire. Donc il n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin.
Et en cas de symptômes, consultez votre médecin car en début de maladie, la dengue ressemble à la leptospirose qui a déjà touché 8 Calédoniens au cours de cette première quinzaine de l'année. Et ne prenez pas d'aspirine ou d'anti-inflammatoire comme l'ibuprofène, car ils peuvent entraîner des complications hémorragiques. Il faut absolument prendre du paracétamol. L'actualité dans la région Pacifique et dans l'état du Victoria, de violents orages ont causé des dégâts considérables dans une région touristique située à 200 km de Melbourne. Correspondance Jean-Pierre Zajac.
La région touristique en question compte notamment la route littorale qui relie Melbourne à Adélaïde, la capitale de l'Australie méridionale. Elle est arrosée par plusieurs cours d'eau, le long desquels ont fleuri de nombreux terrains de camping. Conséquence des orages qui ont éclaté hier après-midi, la région a reçu 180 mm de pluie en 4 heures, toutes les rivières ont débordé et des flots boueux ont submergé les terrains de camping établis sur leurs rives. Suite à ce déluge sans précédent, des dizaines de caravanes, camping-cars, tentes, voitures et 4x4 ont été emportés, certains jusqu'à la mer, du jamais vu dans la région. Fort heureusement, la tragédie semble n'avoir fait aucune victime. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h50, une nouvelle pause dans ce journal. Dans un instant, la suite d'Infomag avec l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Alerte chaleur maximale chez Subaru. L'été fou de Subaru revient. Les prix fondent et les sensations montent. Le Crosstrek, le Forester et l'Outback vous attendent. Robuste, fiable et taillé pour l'aventure avec des offres de folie. Direction Subaru au village automobile à Nouméa au PK4 ou chez NC Motors Kone pour en profiter dès maintenant. Offre valable jusqu'au 31 janvier 2026 dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Passez une journée au phare Amédée avec le Maridée, élu meilleure excursion à Nouméa pendant 10 années consécutives. Réservez votre place sur notre site web amedeeisland.com.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Infomag, on retrouve Lionel Sabot.
Et le gouvernement qui le reconnaît à son tour, mieux vaut tard que jamais, il sera impossible de faire adopter le budget par un vote à l'Assemblée nationale. Vous l'aurez donc compris, le passage en force s'impose donc. Mais Sébastien Lecornu, le Premier ministre, fera des propositions demain pour tenter d'éviter la censure. Deux options restent à disposition de l'exécutif, le fameux 49-3 ou encore les ordonnances. Le choix sera arrêté probablement lors de ce week-end pendant un conseil des ministres. Alexis de La Fontaine pour Europe 1.
C'est un passage obligé avant de pouvoir déclencher l'article 49.3 ou de promulguer les ordonnances. Cette demande vient confirmer une rumeur persistante. Le Premier ministre souhaite interrompre les débats au Parlement pour faire adopter son budget en force. Le gouvernement doit trancher sur sa stratégie mardi prochain et selon les informations d'Europe 1, le 49.3 est la piste privilégiée. C'est moins martial que les ordonnances, justifie un député Renaissance. En revanche, cette hypothèse est rejetée par l'opinion publique. 59% des Français sont contre le 49.3. La question qui se pose maintenant est celle de la censure. Les oppositions vont riposter avec plusieurs motions. Le Rassemblement National, la France Insoumise, le Parti Communiste et les écologistes ont déjà annoncé qu'ils les voteraient. Seuls les Républicains et le Parti Socialiste laissent encore planer le doute. Ils attendent de voir la copie finale adoptée par le gouvernement. Mais si l'un des deux décide d'appuyer sur le bouton, Sébastien Lecornu sera renversé.
Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1. Pour le moment, les débats se poursuivent à l'Assemblée nationale. Les députés qui ont rejeté le retour de la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises. Le budget 2026 qui prévoit notamment une enveloppe d'urgence de 300 millions d'euros pour les agriculteurs, profession toujours mobilisée, même si les manifestations sont un peu plus rares. À deux jours de la signature du traité du Mercosur, 70 tracteurs se sont retrouvés dans le centre de Lyon pour une action devant la préfecture du Rhône. Jean-Luc Boujon pour Europe.
Image insolite avec ces tracteurs circulant sur les quais du Rhône, tout klaxon hurlant, à deux pas de la préfecture où une délégation était reçue tout à l'heure. Mais auparavant, les agriculteurs s'étaient donné rendez-vous dans le quartier de Gerland, devant l'ANSES. L'ANSES, c'est l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, devant laquelle les paysans ont déversé des troncs d'arbres qu'ils ont été obligés d'arracher. Tout sauf un hasard, selon Grégory Chardon, producteur de fruits dans la Drôme.
Cette agence gère tout ce qui est produits phytosanitaires. Et aujourd'hui, on nous enlève des produits. Et nous, dans nos cultures végétales, on en a besoin pour pouvoir lutter contre les ravageurs qui sont omniprésents. Derrière, on perd beaucoup de récoltes. Je vous donne l'exemple de la cerise, par exemple, où on était une très grosse région productrice de cerises. Et ça fait déjà une dizaine d'années qu'on nous a supprimé des produits très efficaces contre des petites mouches. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est symbolique, mais il y a des arbres qui sont arrachés chaque année parce qu'on ne peut plus produire des cerises.
Autant de produits phytosanitaires autorisés par exemple en Espagne et en Italie. Les agriculteurs dénoncent donc une distorsion de concurrence au sein même de l'UE. Et ce sera encore pire avec les pays du Mercosur qui, eux, utilisent toutes les molécules interdites en Europe pour produire leurs céréales, leurs fruits ou leurs légumes, estiment les agriculteurs rhône-alpins, effrayés par la signature prévue samedi du traité avec les pays sud-américains.
Jean-Luc Boujon, le correspondant d'Europe 1 à Lyon. Le président de la République présentait ses vœux aux armées cette nuit pour nous sur la base aérienne d'Istres dans les Bouches du Rhône, le chef de l'État, chef des armées, qui a lancé un énième appel au réarmement du pays dans un monde qualifié de brutal. Un investissement supplémentaire de 36 milliards d'euros d'ici à 2030 est annoncé dans le cadre de la loi de programmation militaire. Le message est assez simple. Nos forces armées doivent absolument poursuivre leur montée en puissance.
L'accélération des périls commande d'accélérer le réarmement de la France. Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Et pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort.
Le président qui a également évoqué les contextes russes-iraniens, mais également le Groenland, où des troupes françaises continuent d'être déployées pour participer à un exercice militaire conjoint avec d'autres forces européennes.
Une première équipe de militaires français est déjà sur place et sera renforcée dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritime. La France et les Européens doivent continuer, partout où leurs intérêts sont menacés, d'être là sans escalade, mais intraitables sur le respect de la souveraineté territoriale.
Emmanuel Macron, lors de ses vœux aux armées, c'était cette nuit pour nous sur la base aérienne 125 d'Istre dans les Bouches-du-Rhône. Il est 11h55, on va marquer une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, nous parlons sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine? DCSM vous propose des cuisines à votre style, adaptées à votre intérieur. DCSM, c'est des cuisines de qualité pour tous les budgets.
Venez découvrir votre future cuisine dans notre showroom, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
La ville de Nouméa recrute des sapeurs-pompiers volontaires.
Si vous souhaitez travailler au centre de traitement de l'alerte situé à Normandie, vous avez jusqu'au 16 janvier pour postuler.
Et si vous préférez exercer dans un des deux centres de secours, vous pouvez candidater jusqu'au 6 février. Toutes les infos, conditions, phases de recrutement et dossiers de candidature sont disponibles sur le site de la ville www.nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le 24 38 18.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Lionel Sabot.
Et on va parler tennis avec de temps fort hier à l'Open d'Australie, le tirage au sort des tableaux dames et hommes, mais aussi la fin des qualifications et le français Arthur Géa qui n'en finit plus d'enchaîner les victoires. Le 197e au classement mondial s'est qualifié pour le tableau final. Il sera d'ailleurs le seul joueur tricolore issu des qualifications à l'Open d'Australie à Melbourne, hommes et femmes confondus. Reste son vainqueur du Challenger de Nouméa, 21 ans. Arthur Géa va disputer son tout premier tournoi du Grand Chelem après avoir échoué plusieurs fois en qualification à Roland-Garros.
Je me sens super heureux, honnêtement très content. Gros match encore, trois gros matchs là dans les qualifs, dans la continuité de Nouméa. Donc franchement, le niveau est là où on l'attendait et ça fait très très plaisir. Là, je vais reposer un peu la machine, je vais essayer de récupérer un petit peu. Et après, je vais me préparer en fait comme d'habitude. Physiquement, je sais que je suis prêt à tenir les 5-7. Après, bon, on verra sur le court comment ça se passera, mais ça va être un petit peu comme d'habitude.
Et au premier tour, Arthur Géa affrontera le Tchèque Jiří Leška, tête de série numéro 19. Encore un mot du tirage au sort. Il y aura 4 Françaises engagées dans le tableau dames. Notez que Sarah Ratokomanga, 118e au classement WTA, affrontera dès le premier tour la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka. Dans le tableau messieurs, il y aura 15 joueurs, dont 2 seront tête de série. Notez que le premier tour sera compliqué pour Hugo Gaston, 94e au classement ATP, qui sera opposé d'entrée de jeu au double tenant du titre numéro 2 mondial, Yannick Sinner. L'Open d'Australie, première manche du Grand Chelem, ce sera à suivre à partir de dimanche sur les courts de Melbourne. Le sport, c'est aussi la suite du Dakar. On courait cette nuit la 11e étape du Rally Raid. En moto, c'est l'Américain Sheckler Owes qui s'est imposé. Il a devancé le Français Adrien Van Beveren au classement général à moto. Benavides Luciano prend la première place avec 23 secondes d'avance sur l'Américain Ricky Babrek et 15 minutes et 16 secondes d'avance sur l'Espagnol Tosha Chiariena. En auto, victoire du Suédois Mathias Ekström sur Ford. Il a devancé le Français Romain Dumas et l'Espagnol Carlos Sainz Senior. Au classement général, c'est toujours le Qatari Nasser Alatia qui est en tête avec 8 minutes et 40 secondes d'avance sur Nani Romain. Sébastien Loeb monte sur le podium pour le moment avec 18 minutes et 37 secondes de retard sur Nasser Alatia. Quelques mots de handball avec les bons débuts de l'équipe de France à l'Euro. Messieurs, les Français qui sont imposés ce matin 42 à 28 sur la République tchèque. Prochain match pour les Français, ce sera ce week-end face à l'Ukraine. Et puis un mot de biathlon avec le relais de la Coupe du Monde au Ruhpolding en Allemagne. Les Français Fabien Claude, Oscar Lombardo, Quentin Fillon-Maillet et Éric Perrault ont remporté donc ce relais de Coupe du Monde devant la Norvège et l'Allemagne. C'était le dernier relais avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques qui débuteront dans 22 jours du côté de Milan. Voilà, c'est la fin de ce journal.